Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Après une vie de boy de Ferdinand Oyono, nous entamons à partir d'aujourd'hui la lecture radiophonique du roman Les Oumaris ou les écueils de la vie de l'écrivaine ivoirienne Regina Yaou. Publié pour la première fois en 1982, Les Oumaris ou les écueils de la vie a marqué toute une génération d'Ivoiriens et a été le sésame qui a ouvert les portes de la notoriété à Regina Yaou. Au niveau du récit, de quoi parle ce roman ? Les Oumaris ou les écueils de la vie est l'histoire pathétique d'une jeune fille, Les Oumaris, qui à 14 ans quitte A, son village natal, pour aller poursuivre ses études à Abidjan, la capitale. Sa mère meurt, son père qui la soutenait financièrement se détourne d'elle, son fiancé la trahit alors qu'elle est enceinte. Les Oumaris est donc contrainte de lutter seule pour élever et dignement son fils, mais le malheur semble s'acharner sur elle. Révoltée, elle décide de prendre sa revanche sur la vie. Mais là encore, le sort ne lui accorde aucun répit jusqu'à ce que, poussée dans ses derniers retranchements, elle pose un acte désespéré. Lequel ? Et quelqu'un parviendra-t-il à sauver les Oumaris du péril ? Vous le saurez en suivant attentivement chaque mercredi à 16h10, Plaisir de lire sur Radio de la Paix. Nous proposons donc aujourd'hui le chapitre 1 du roman de Regina Yaou, Les Oumaris ou les écueils de la vie. Le soleil décochait malicieusement ses flèches acérées sur A, petit village côtier. Des femmes aux seins ballants, vêtues de pagnes et de camisoles défraîchies, traversaient les rues chargées d'une grosse cuvette d'eau potable. Leurs jeunes enfants les suivaient, les joues ruisselant de sueur, de larmes et de morves que nul n'avait le temps de suer. Un essaim de mouches survolait le convoi que fermait invariablement un chien. On s'interpellait de cours en cours, on échangeait des salutations. Les commérages allaient bon train. On se plaignait de sa situation financière ou du mauvais caractère des enfants d'aujourd'hui qui ne respectaient plus personne. On entendait un bruit persistant. Les pétarades de l'inlassable machine à broyer le manioc, autour de laquelle on voyait un lot impressionnant de cuvettes pleines de tubercules blancs comme le lait. Comme tous les dimanches, la bonne sauce graine bouillait dans toutes les marmites. Son odeur délicieuse flottait dans l'air et déjà les coups de pilon annonçaient que le foutu serait bientôt prêt.
« Ah, papa, je me sauve !»
dit une petite voix. Et une fillette de 12 ans franchit le seuil de la case en courant. Avant que la vieille Nguissant ait eu le temps de cracher son long jet de salive, son interlocutrice avait disparu. Nguissant remua la tête et sourit. Puis, elle se parla tout haut, en grattant sa chevelure blanchissante. « La pauvre enfant, si affectueuse. Quand je pense que ma fille Henriette m'a désobéi lorsque je lui ai défendu d'épouser Martin Lézou. Si sa propre mère avait été vivante, je suis certaine que les choses se seraient passées autrement. Voilà le résultat. Si Henriette avait agi autrement, la petite et elle vivraient-elles en recluse ? Non, Martin ne leur permet de fréquenter aucun de leurs parents. Et pourtant, nous sommes la famille maternelle. » La bonne femme, poussant un soupir, se remit à l'ouvrage. Exceptionnellement, elle préparait de la tiéquée le dimanche. Le manioc lui avait donné du fil à retordre hier, aussi l'avait-elle laissé reposer jusqu'à aujourd'hui. Nguissant poussa encore un long soupir, se leva et donnant un coup sous le vent de bambou solidifié à la bouse de vache, sortit déposer les grains de manioc au soleil. Au moment de retourner dans sa cuisine enfumée, elle regarda sur la grande route, par-dessus la palissade. Au loin, la fillette courait toujours.
« Marie, Marie !»
appela une femme d'environ 30 ans. Grande, mince et d'un teint assez clair, elle évoquait les femmes peules. Et les traits fins de son visage accentuaient cette impression. Une fillette apparut, celle qui avait quitté précipitamment la case de la vieille Nguissant. La femme l'examina de la tête aux pieds et satisfaite sourit.
« Maintenant, tu peux y aller. Mais reviens vite. Ton père et ses amis seront bientôt là et j'aurai besoin de toi. »
lui dit-elle.
« Viens, maman !»
répliqua la fillette et elle s'en alla en sautillant. Parmi les rares faveurs accordées par Martin Lézou à sa fille, il y avait chaque dimanche la visite aux sœurs. Et Marie s'en faisait une fête. Les religieuses françaises, installées depuis près de 15 ans dans le village, avaient vu naître et grandir Marie. Aussi, la petite les considérait-elle comme sa seconde famille. Marie allait aider ses amis. C'était jour de ménage. La fillette gravit en chantant les marches qui menaient aux appartements des sœurs. Quand elles l'entendirent, des cris de bienvenue fusèrent de partout. Marie se mit au travail. Elle étendit le linge au grand air, éplucha les pommes de terre pour le déjeuner. Puis elle prit congé de ses amis, un paquet de friandises sous le bras. Juste au moment où sa mère s'apprêtait à aller à sa rencontre, Marie arriva. Elles allèrent toutes les deux à la cuisine. Les invités seraient bientôt là. Marie devait donc se dépêcher de préparer les mets européens. Sa mère, qui était chargée de confectionner les plats africains, avait terminé depuis un bon moment déjà. Marie ne se fit pas prier. Le plat de crudité, le poulet rôti, la purée de pommes de terre, la crème renversée et les beignets soufflés qu'elle confectionna semblaient le fruit d'un coup de baguette de fée, tant cela avait été fait rapidement. Pendant que sa mère remplissait les plats de service, Marie alla chercher des fruits et se mit en devoir de les laver et de les disposer dans une corbeille. Une fois les fruits rangés, elle s'offrit une petite fugue du côté de la mer. À midi, lorsque la silhouette massive de Martin Lezou se profila à l'entrée de la cour, Marie et sa mère avaient mis le couvert sur la véranda. Martin fit bruyamment son entrée, suivi d'une horde d'amis qu'il présenta rapidement à sa femme et à sa fille. La laine de son père empestait l'alcool. Marie eut la nausée. Laissant son père et les autres convives se régaler, Marie alla s'enfermer dans sa chambre. Elle se plaça devant son grand miroir et se regarda d'un œil critique. Elle avait hérité, trait pour trait, du visage de sa mère et ne trouva rien à lui redire. Les grands yeux noirs, le nez fin et la petite bouche aux lèvres pleines ne la mécontentaient pas. Mais le reste, Marie désespérait de n'être jamais aussi élancée que sa mère. Une chose était évidente, elle serait bien en chair comme son père. Elle venait de passer avec succès le certificat d'études primaires et son père entendait l'envoyer à Abidjan au collège, bien qu'elle n'ait pas obtenu de bourse à l'examen d'entrée en 6e. La fille ne voulait pas quitter sa mère car elles étaient tout l'une pour l'autre. Le père de Marie, un osseur doublé d'une brute, avait l'habitude de les brimer sauf quand il était de bonne humeur. L'enfant savait que sa mère souffrirait sans elle. Rassénérée parce qu'il s'écoulerait encore des semaines avant qu'elle ne s'en aille, Marie se leva, s'épongea le front et alla frapper à la porte de sa mère. Elle ouvrit, bien qu'elle n'ait pas entendu de réponse. Henriette, la mère de Marie, pleurait doucement. Devant les pleurs de sa mère, le bel optimisme de Marie disparut. Elle éclata en sanglots. La mère et la fille mêlèrent leurs larmes un bon moment. Puis, Marie essaya de consoler celle qu'elle surnommait « mon ange gardien ». Imperceptiblement se laissait gagner par la fièvre que l'on ressent face à l'inconnu. Ce sentiment à mi-chemin entre la joie et l'angoisse. Un gros paquet de robes cousues par les religieuses sous le bras, la petite franchit le portail de la cour familiale et courut à la cuisine, à la recherche de sa mère qui était dans la chambre de sa fille. Elle y rejoignit et déposa le colis sur le lit. Henriette ouvrit le paquet et déplia les robes les unes après les autres. Elle les compta et s'aperçut avec émotion qu'en plus des 7 robes qu'elle avait commandées, il y en avait 3 autres et plusieurs sous-vêtements de pergale garnis de dentelles fines. Marie fit un grand effort pour ne pas se mettre à sauter, à gambader dans cette chambre tant elle était contente. Sans que sa mère le lui demande, elle grimpa sur une chaise et prit sur l'armoire la valise et les chaussures que son père avait rapportées pour elle la semaine précédente. Marie ouvrit la valise et aida sa mère à y ranger les affaires. On riait. On se taquinait, on faisait 1000 projets. Il ne se passerait pas un mois sans que Marie vienne au village voir sa mère. Henriette, tout en pliant le linge de son enfant, comptait mentalement les jours. Elle s'aperçut qu'il ne restait plus qu'une semaine et sa fille unique, son cœur, son âme, s'en irait loin d'ici, dans la jungle d'Abidjan. La pauvre avait peur. On racontait tellement d'histoires sur les gens de là-bas qu'il était impossible de ne pas s'inquiéter à l'idée que sa fille allait vivre avec eux. En son fort intérieur, Henriette demandait au bon Dieu de protéger sa fille et de l'aider à réussir. Une certaine nostalgie s'était emparée de Marie avant même qu'elle ne quitte la maison. Chaque jour qui la rapprochait de son départ faisait grandir en son cœur l'amour qu'elle portait à sa mère. Elle souffrait véritablement de partir parce qu'il fallait pour cela renoncer à trop de choses. Ne plus grimper la colline menant chez les sœurs. Chaque dimanche, après la messe, ne plus se glisser furtivement dans la case de Baba en guissant. Oublier le trajet que sa mère et elle faisaient souvent ensemble pour aller chercher l'eau. Toutes les familles envoyaient des cadeaux d'adieu. Et Marie allait de cour en cour remercier et dire au revoir. Mieux que personne, elle comprenait sa propre détresse. Ne dit-on pas que partir, c'est mourir un peu? Elle partirait. Certains l'oublieraient. Elle ne voulait pas de cela. Dans le cœur des bébés, une autre personne la supplanterait et quand elle reviendrait, il ne se souviendrait plus d'elle. Il ne voudrait plus qu'elle les cajole. Il la considérerait comme une étrangère. Dans sa famille, il n'y avait plus eu d'enfants après elle. C'est pour cette raison qu'elle s'était attachée à ceux des autres. Elle avait dans ce village une dizaine de filleuls qu'elle choyait et il fallait abandonner tout cela. Il n'était pas question de se laisser aller. Et Marie s'était résignée à son sort d'exilée. Elle exagérait son malheur, mais c'était sa nature d'être pessimiste. Hier, les papiers pour l'école étaient arrivés. Son père les lui avait montrés. La rentrée se ferait dans 4 jours. Le foyer de religieuse qui devait l'accueillir n'ouvrant que dans 2 jours, son père avait décidé qu'elle s'en irait l'avant-veille de l'ouverture du collège. Marie se sentait un peu inquiète. Dans ce genre d'école, on avait 1 mètre par discipline. Et puis, on apprenait l'anglais. Cette perspective stimulait l'imagination de Marie. C'était tout juste si elle ne se voyait pas déjà en train de l'enseigner aux autres. Après s'être assurée que son père faisait une partie de cartes avec ses amis, Marie prit ses jambes à son cou. Elle voulait voir une cousine germaine de son père, tante Anjouva, qu'elle n'avait pas la permission de fréquenter. Mais Anjouva, veuve sans enfant, aimait tendrement Marie et cette dernière le lui rendait bien. Tante Anjouva savait que Marie raffolait de beignets de manioc, bedeata, que l'on mangeait avec de la noix de coco séchée. C'est pourquoi elle confectionnait toujours et les tenait à la disposition de l'enfant. De temps en temps, lorsque Martin Lézou était en voyage, Marie passait la journée chez sa tante.
Coco, tanti, je suis là. Le lion est à la plage.
Anjouva remit le paquet à Marie qui s'élança hors de la case. Et le jour J arriva, au grand désespoir de Marie. Une malle, 2 valises, un panier repas constituaient ses bagages. Levés de bonne heure, les parents de Marie attendaient avec elle le taxi Bruce. Le père de Marie l'accompagnait jusqu'au foyer des religieuses. Henriette faisait 1000 recommandations à Marie qui promit de ne pas les oublier. Le cœur gros, la fillette avait du mal à parler. La camionnette était arrivée. L'apprenti chauffeur, couvert de poussière et de quenilles, ressemblait à un mauvais clown. Il chargeait et attachait les bagages sur le camion en sifflotant et en poussant des cris stridents pour activer les passagers trop lents. Des poulets caquetaient, sortaient la tête des cages pour mieux respirer. Les enfants, un peu trop serrés par les pagnes de leur mère, se mettaient à pleurer à chaudes larmes, jusqu'à ce qu'un sein flasque vienne les consoler ou qu'une taloche bien appliquée leur coupe le souffle. Tout ceci avait quelque chose de cocasse et n'importe qui s'en serait amusé. Mais Marie n'avait pas le cœur à rire aujourd'hui. Le chauffeur klaxonna plusieurs fois, très longuement, espérant tirer quelques retardataires de chez lui. Marie embrassa encore une fois sa mère et monta dans le taxi avec l'aide de son père. Le taxi Bruce démarra enfin. Tandis que l'apprenti chauffeur faisait des acrobaties pour sauter dans le véhicule, Marie vit sa mère agiter son mouchoir. Elle y répondit et longtemps après que celle-ci eut disparu de son champ de vision, Marie continua machinalement son geste. Marie regardait la route sablonneuse sans la voir. Bientôt, les voyageurs arrivèrent à l'embarcadère. Le bac était sur le point de s'en aller, ils se précipitèrent. Penchée sur les barres de fer, Marie voyait l'eau verdâtre bouillonner. Au bout de 5 minutes, elle leva les yeux et vit, se découpant sur le fond du ciel bleu, le village de Ngemé. À présent, c'était bel et bien fini. Le cordon la reliant encore au village venait de se rompre. La sirène du bac retentit plusieurs fois. La seconde étape du voyage s'achevait. Marie suivait son père, le panier à la main. Le vent soufflait fort, soulevant sa robe et son foulard. Comme il y avait déjà beaucoup de passagers dans le taxi en partance pour Abidjan, Marie et son père n'eurent pas à attendre longtemps. Dès qu'ils furent assis, la camionnette fila en direction de la ville. Pour Marie qui allait entamer une vie nouvelle, une page venait d'être tournée.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation Aoussi Potter.